Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 508 du podcast Journal Actuel. Mathieu, très heureux de vous retrouver pour votre débrief de la semaine NFL. À mes côtés, pour parler de tout ça, cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut Lucas, salut à tous.
Lucas Vola est là, bonjour Lucas.
Ouais, le back-to-back, t'as failli dire Greg, hein. T'as failli dire
ouais,
Greg, mais
c'est ça.
Je suis en back-to-back cette semaine.
J'ai failli dire Greg et j'étais un tout petit peu perturbé parce que j'avais l'impression que le micro de Raphaël était un poil fort. Et comme on n'a pas de backup d'enregistrement aujourd'hui, je fais attention à ce qu'il y a dans mes oreilles. Et peut-être baisser un tout petit peu ton gain, Raphaël. Votre débrief de la semaine est là. On va donc revenir sur les grandes leçons de tous les matchs de la semaine. On vous a décortiqué les quatre affiches. Maintenant, vous avez l'habitude dans les deux podcasts disponibles précédemment, le match du jeudi et les trois affiches principales du week-end. Il nous reste donc 12 matchs à décortiquer, messieurs, et évidemment, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Une grosse blessure, une grosse bagarre, des gros cartons. C'est parti pour la semaine 2 en NFL.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
On commence, messieurs, ce débrief avec l'affiche entre les 49ers et les Seahawks. Pas forcément très glamour sur le papier. 27-7 pour les 49ers, mais il y a quand même l'énorme info blessure de la semaine. Une cheville cassée, un fibula, si j'ai bien vu passer d'ailleurs. Hein, c'est pas tout à fait la cheville pour l'ami Trelens. Cheville, donc fibula cassée pour Trelens. Opération fin de saison, il est sorti relativement tôt dans le match. On a donc vu Jimmy Garoppolo réapparaître. Jimmy Garoppolo qui a cherché une équipe pendant tout l'été. Et ben l'équipe, en fait, c'était les San Francisco 49ers. Lucas, est-ce que ça a changé quelque chose, finalement, pour les 49ers, la rentrée de Jimmy Garoppolo?
Messieurs, moi, j'ai juste un truc à dire. Déjà, fermez les yeux, imaginez-vous, on a déjà la plus belle histoire de la NFL de la saison. Imaginez-vous, on est le 12 février, je crois que c'est ça, 12 février 2023. Il reste 1 minute 58, on est à Arizona. Les 49ers sont menés de 5 points face à la défense des Bills. 2 minute drills, Jimmy Garoppolo fait un 2 minute drills incroyable, fait gagner le Super Bowl aux 49ers. On a la plus belle histoire, l'indésirable, lui qui ne devait plus être là, fait gagner le trophée à cette équipe-là. Bon, c'est pour sourire, mais
on l'a dit. Tu m'as vendu du rêve, là.
Ouais, je sais. Bon, ça sera pas pour tout de suite, mais voilà, on pourra ressortir la séquence. Non, mais tout ça pour dire que on l'avait dit, en fait, si Trey Lance, on parlait de mauvaise performance, mais il y a aussi la blessure. S'il se blesse ou il y a une mauvaise performance, derrière, il y a Jimmy Garoppolo. Et derrière, c'est exactement la même équipe que l'année dernière, avec les défauts et les qualités de l'année dernière. Mais c'est quand même pas une équipe dégueulasse, si je peux me permettre, parce que c'est une équipe qui va en finale de conf. Donc, ça a changé. On a retrouvé l'équipe de l'année dernière. Il y a un peu moins de courses, forcément, du quarterback. Forcément, Garoppolo est un peu moins dans ce profil-là. Mais il a fait du Garoppolo. Il a été propre. Il a été bon. Ça, c'est pour les 49ers. Je sais pas si c'est une bonne chose. On va pas dire ça. Mais on perd pas grand chose pour l'instant.
13 sur 21, 154 yards, un touchdown pour lui. Raphaël, ils étaient censés donner leur futur à Trey Lance avec un plus haut plafond, etc. Mais est-ce qu'ils y perdent vraiment dans l'immédiat? En fait, ils redeviennent l'équipe de playoff qu'ils étaient l'an dernier, quoi.
Non, effectivement, dans l'immédiat, sur un temps court, ils perdent pas forcément, parce qu'on a l'impression du peu qu'on a vu, encore une fois, de Trey Lance cette saison. Hein, il sort quand même rapidement, donc on est à un match et quelques minutes, c'est encore une fois un échantillon très très faible. D'ailleurs, ça va faire 3 ans d'échantillon très faible, hein, parce que de ce que j'ai compris, sa dernière année universitaire, en plus, il avait très peu joué à cause du Covid. Donc ça commence à faire 3 ans qu'il n'a pas fait plus de 2 matchs, visiblement, ce qui va poser peut-être question quand même malgré tout. Donc à court terme, non. Maintenant, moi, c'est plus sur le moyen-long terme pour les 49ers que ça m'inquiète un peu, parce que l'année où tu devais lui confier les rênes de l'équipe et être sûr de ton choix, bah ça reporte tout d'un an. Donc c'est un peu compliqué. Je suis pas sûr que Garoppolo reste un an de plus sur le banc l'an prochain pour au cas où. Donc, surtout s'il fait une belle saison et si, comme Lucas le dit, il va chercher un titre, je pense qu'il aura beaucoup de prétendants à la signature l'an prochain. Donc, c'est ouais, pour les 49ers, court terme, pas un problème. Long terme, moyen terme, un peu chiant quand même.
C'est compliqué. J'étais en train de m'imaginer ce qui se passait dans le scénario de Lucas. Tu vois, genre, il gagne le Super Bowl. Donc là, il prend un contrat de 250 millions de dollars garantis sur 5 ans, mais avec qui? Avec San Francisco qui bazarde Trey Lance pour récupérer un ou deux choix de draft? Ou alors avec, ah bah non, j'allais dire les Patriots, mais ils ont drafté Mac Jones, parce que j'allais dire, tu vois, pour boucler les histoires et retourner aux Patriots, ils gagnent un titre sans Brady.
Plein de possibilités.
Seattle, parce que là, il va falloir quelqu'un. Hein.
Ah ouais, pour en plus se venger.
Grandiose.
Il gagne le titre avec eux et ensuite il se venge.
Ouais, bon.
La totale. Bon, en tout cas, le mystère demeure Trey Lance pendant une année de plus, tu l'as bien dit. Mais ça fait un prétendant au play-off. Et on a retrouvé, tu le disais, Lucas, cette équipe de l'an dernier qui court un peu moins, qui lance un peu plus. Quand il est propre, ça passe. Et puis, ça va être l'histoire de ces 49ers. Mais j'ai l'impression qu'on a rarement une blessure d'un quarterback titulaire qui a aussi peu d'effet, si je peux dire ça comme ça.
Sportivement, c'est sûr qu'il y a pas, il y a un effet sportif avec un changement de schéma, mais c'est vrai que in fine sur le résultat, il y a pas beaucoup d'effet, voire peut-être qu'il pourrait gagner un peu plus de matchs, on sait pas, mais c'est vrai que à très court terme, sportivement, il y a pas beaucoup d'effet. Après, il y a beaucoup d'effet sur la philosophie derrière, sur le choix à prendre, sur la direction de la franchise, comme le disait Raph. Mais c'est vrai que pour la semaine prochaine, par exemple, ça change pas grand-chose en fait.
C'est le concept de la blessure indolore pour les 49ers. Pour les Seahawks, quand même, 7 points sur les 6 derniers cartons. Pour eux, Geno Smith a été honnête. Oui. Mais derrière, voilà, le jeu au sol est en échec. Donc, tu te reposes sur Geno Smith. Donc, tu n'as quand même pas beaucoup de chances de gagner, Lucas.
Oui, quand tu dis en échec, c'est un euphémisme. Il est inexistant, quasiment, ce jeu au sol. Il est vraiment inexistant. Et je pense que cette équipe-là, quand tu viens d'annoncer le quarterback Geno Smith, alors certes, il n'a pas été catastrophique, mais ce n'est pas un joueur, il ne serait pas là sinon. Enfin, il n'aurait pas fait la carrière qu'il est en train de faire s'il était capable de faire gagner des matchs à lui seul, de faire gagner son équipe à lui seul. Donc, il a besoin qu'on l'entoure, il a besoin d'un jeu au sol performant. Les Seahawks, en général, ont besoin d'un jeu au sol performant. Et pour le coup, le jeu au sol, là, il est un petit peu, voilà, je l'ai dit, inexistant. Donc, c'est compliqué pour eux. Ils gagnent la semaine dernière face aux Broncos. Bon, ils ne volent pas le match du tout, mais bon, c'est une victoire à l'arraché. Là, ils sont un peu ramenés sur terre. Je pense que ça risque d'être compliqué.
Le duo de coureurs de Seattle qui tenait à prouver que ça sert à rien de drafter des coureurs hauts, hein, puisque Rashad Penny premier tour, Kenneth Walker deuxième tour, ils ont cumulé 25 yards à eux deux en 10 courses, ce qui nous fait une moyenne de 2,5 yards tout rond pour Seattle. Donc ça va être difficile pour les Seahawks, on s'en doutait. Raphaël, tu veux rajouter un mot sur eux ou on passe à la suite?
Non, tu l'as dit, disons que sur ce match, c'est un peu plus ce qu'on imaginait pour eux que le premier match qu'ils ont sorti.
Oui, bah c'est ça. Saints 10, Buccaneers 20, c'était une des affiches de la semaine. Là, on va être plus dans le sportif que dans l'infirmerie. Tom Brady a vaincu les Saints en saison régulière pour la première fois depuis qu'il n'attend pas, puisqu'il était sur 0 victoire et 4 défaites. Mais alors, ça n'a pas été facile du tout, Lucas. De quoi on ressort de ce match pour les Buccaneers? avec quoi on ressort de ce match pour les Buccaneers. Je vais y arriver.
Alors, juste une précision, il me semble qu'il est bas en play-off la première
oui,
année.
Il est bas en play-off, oui, pardon. Je voulais dire en saison régulière, ouais.
De quoi on ressort? Ben, on ressort que j'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais que les Buccaneers ressemblent de plus en plus aux Patriots version début Tom Brady. C'est-à-dire une énorme défense, un jeu au sol et un Brady qui est bon, loin d'être mauvais, mais qui ne va pas porter son équipe comme il a pu le faire sur la suite de sa carrière, vraiment. Et pour l'instant, ça gagne, et une équipe comme pouvaient l'être les Patriots qui trouve toujours un moyen de gagner même quand c'est difficile. Alors certes, là c'est à l'arraché. Quand on regarde ça, on voit 20-10, il y avait 3-3 pendant longtemps dans ce match là on se dit que bon, c'est pas un grand match, mais en même temps ils trouvent une manière de gagner, ils trouvent une façon de battre ces Saints qui leur posent énormément de problèmes depuis 2 ans, tu l'as dit. Donc on ressort forcément pas avec un sentiment hyper réjouissant du côté des Buccaneers, mais on ressort avec le sentiment tout de même d'avoir fait le travail. Voilà, ça fait 2 victoires, et puis on se projette sur la semaine prochaine avec quand même des bases solides.
Raphaël, t'es inquiet, toi, du fameux body language de Tom Brady, énervé, de l'ambiance, de la bagarre, qui part un peu notamment parce qu'il est encore énervé, qu'il pleurniche et que Marshawn Lattimore lui fait remarquer?
Inquiet, non, c'est pas le terme, parce que il y a suffisamment de bases offensives, plus quelques blessures qui peuvent revenir, hein. Là, il jouait quand même sans Godwin et Julio Jones. Mike Evans rate une partie du match, à cause de son altercation. Donc, je pense que ça va se remettre en place progressivement d'ici la fin de saison offensivement. Donc, je suis pas plus inquiet que ça. Après, pas emballé en tout cas, par contre, c'est quand même une attaque qui ronronne, je trouve, beaucoup pour le moment. C'est pas très efficace. Oui, il y a une solution ou deux trouvées par-ci, par-là, mais c'est franchement pas ce qu'on attendait non plus de la part de Tampa Bay. Est-ce que ça vient en partie de Tom Brady, qui a eu une intersaison un peu compliquée, qui a d'autres problèmes à côté, visiblement, qui peuvent malgré tout finir par peser un peu, hein. Ça peut être un robot, je pense que voilà, ça peut quand même jouer un peu. Donc à voir. Après, par contre, l'avantage pour eux, la bonne nouvelle pour eux, c'est que la défense est en train de complètement contrebalancer cette attaque un peu moribonde. Leur défense depuis 2 matchs est absolument exceptionnelle. Ils sont d'une efficacité sur toutes les lignes. Avant on parlait que du front 7, là c'est Jamal Dean et le backfield défensif qui depuis 2 matchs se montre. Donc tant que la défense de Tampa va être à ce niveau là de toute manière, pas grand monde va être capable d'aller les battre, hein.
Non, et puis comme disait Lucas, il suffit qu'il soit ce sera peut-être pas comme ça toute la saison, mais en tout cas qu'il soit comme à l'époque Patriots, c'est-à-dire qu'il fasse proprement, qu'il perde pas de ballon, qu'il réussisse les quelques lancers qu'il faut, là, notamment sur Perryman, etc. Et ça fait le boulot. Donc moi je suis pas plus inquiet que ça. Et sur l'attitude, honnêtement, il a toujours été très mauvais.
C'est ce que j'allais dire. Il a toujours été comme ça. C'est pas. Enfin, là je comprends que parce que mais c'est pas nouveau. Il a toujours été comme ça. Non. Un match comme celui-là, il perdait l'année dernière. Hein. Et même il y a 2 ans, quand ils sont champions, ils perdent des matchs comme ça face aux Saints.
Et il s'énervait déjà. Donc ça change pas grand-chose. Moi j'ai trouvé plus fun que l'attitude de Brady, c'est de voir Bruce Arians sur la touche. Je sais pas si vous avez fait gaffe, au moment de la bagarre, il y a Bruce Arians sur le banc de touche des Buccaneers. Je sais absolument pas ce qu'il fout là. En l'occurrence, il venait faire chauffeur de salle en plus, donc je vois pas trop l'intérêt. Mais assez étrange d'avoir un coach démissionnaire, pardon, qui se retrouve sur le banc de touche de son ancienne équipe, ce qui est assez étrange, même s'il a des fonctions dans la franchise. Ouais. Du côté des Saints, ce qu'on retiendra, c'est Jameis Winston, non? Jameis Winston qui restera Jameis Winston. 3 interceptions dans le dernier quart. On sait qu'il va le faire, tout le monde le sait. Devin White le sait, il l'a dit à la presse après. Moi, j'ai déjà tout dit ces dernières années sur Jameis Winston, je peux en rajouter.
Oui, bah, c'est assez simple. Et on l'a vu, en effet, dès qu'il faut un peu prendre des risques, il est le premier à le faire et il en prend trop et ça donne ce genre de choses. Après, il y a une défense qui est quand même incroyable parce que qui maintient cette équipe des Buccaneers et qui leur pose souci encore et toujours. Il y a du potentiel en attaque, mais c'est vrai que ça risque d'être. Kamara n'était pas là, mais ça risque d'être encore une fois restrictif avec Winston parce que maintenant, comme tu l'as dit, on le sait, il n'y a rien de nouveau.
Après, moi, qu'on me dise pas, oui, mais il avait des douleurs au dos. Oui, mais s'il est pété, c'est la responsabilité des coachs de pas le faire jouer. Et de toute façon, il a pas attendu d'avoir toutes les vertèbres pétées pour lancer 3 interceptions par match. Donc, je vois pas du tout le rapport. Et deuxièmement, si tu veux un mec qui lance pas d'interceptions et qui tue pas les matchs, t'as Andy Dalton sur le banc. Non, mais tu vois, au bout d'un moment, la question elle se pose aussi. Moi, on me vend le super potentiel incroyable de Jameis Winston, mais
après, si Dalton est pas sur le terrain, c'est qu'il arrive même pas à le battre non plus, tu vois. Enfin, genre...
ouais. Mais bon,
Je ne sais pas si Dalton est la solution non plus, hein, mais
En tout cas, bon.
ah bah, oui, enfin, voilà, tu l'as tout dit, t'as tout dit sur Winston, on a déjà beaucoup dit dessus. Les Saints mourront et vivront par certains exploits qu'il est capable de faire à certains moments.
Dommage parce que très belle défense encore en plus.
Ah
Ils ont
oui.
une défense solide, hein, mine de
Ah
rien.
bah oui.
Bon, Mike Evans sera suspendu un match suite à l'altercation avec Marshon Lattimore et quelques autres joueurs des Saints. Je le précise, on y reviendra évidemment dans la preview. Eagles-Vikings, c'était le match du lundi soir, un des deux matchs du lundi soir. Il y en a deux, on va y revenir. 24 à 7 pour les Eagles. Les Eagles qui confirment. Est-ce qu'on valide Jalen Hurts? Est-ce que c'est ça la grande leçon de ce match, Lucas?
Moi, la leçon de ce match que j'ai tiré, c'est que les Eagles peuvent gagner la NFC.
À
Franchement,
direct,
ouais, non,
yes.
mais je me dis, on les a hypés avant le début, notamment tous les trois, messieurs, mais on n'avait pas encore vu. La semaine dernière, ils gagnent, mais bon, pas forcément comme on l'imaginait, pas forcément face à une équipe qui pourrait être top, top, top niveau. Là, ils battent les Vikings de manière nette. Ils sont bons, Jalen Hurts est bon, voire très bon. Il y a une grosse défense, il y a tous les éléments, il y a tous les ingrédients qu'on imaginait, qu'on a enfin vu. Certes, maintenant, il va falloir le faire sur toute l'année et le faire en playoff. Mais si ça joue comme ça, alors je parle de la NFC, je ne parle pas forcément du niveau au-dessus qui, pour moi, est le gagnant et le sortant de l'AFC. On verra dans quelques mois si j'ai raison ou pas. Mais je pense que la NFC, on parle des Buccaneers, on parle d'autres équipes, ils sont pas très loin d'être parmi les meilleures équipes NFC.
Jalen Hurts a quand même commencé très très fort. Il a 17 sur 20, 251 yards d'intelligence rien qu'en première mi-temps. Il y a un gros jeu au sol, il y a un super Hurts, il y a des super cibles. Tout ça pour toi, ça marche, c'est validé, Raphaël, et tirer jusque-là à dire ils peuvent gagner la NFC. Pas ils vont, mais ils peuvent.
Ouais, oui, je pense sur ce qu'on voit, ils peuvent y aller. T'as fait une liste des qualités, mais effectivement, tout globalement, ça marche très bien offensivement du côté de Philadelphie à l'heure actuelle. Et dans un match où on savait que le jeu au sol, grâce à la ligne offensive notamment, serait une puissance et quelque chose de fort du côté de Philadelphie, mais il y avait des questions sur le jeu aérien. Et le jeu aérien, on a vu qu'il était capable de fonctionner cette année. Parce que voilà, AJ Brown apporte beaucoup dans ce jeu aérien. Il y a d'autres solutions. Donc à partir de là, la défense se met progressivement en place. Quand en plus tu arrives à avoir un cornerback élite, on va dire comme Darius Slay, qui muselle complètement le receveur numéro un adverse, parce que franchement hier il a détruit. Ouais, désolé pour lui, mais il a détruit Justin Jefferson. Peut-être aidé par certaines passes pas très bien assurées de Kirk Cousins, on y reviendra sans doute. Mais quand en plus tu as ce genre de cornerback qui te permet un peu de verrouiller la qualité numéro 1 de l'équipe adverse, ouais, moi je trouve que c'est une défense qui commence à avoir de la gueule, c'est une équipe qui a de la gueule.
C'est vrai que j'avais été direct sur l'attaque, mais j'aurais très bien pu commencer par la défense, parce que comme tu l'as dit, Darius Slay a deux interceptions. Justin Jefferson, alors il a quand même six réceptions pour 48 yards, mais en fait, dans les standards de Justin Jefferson, en effet, c'est un tout petit match. Donc on a une équipe très complète, en effet. Et de l'autre côté, des Vikings qui ont toujours un petit peu de mal en prime time. Kirk Cousins est à 2 victoires et 10 défaites désormais. J'ai bêtement pronostiqué sur eux et j'avais complètement oublié cette stat du prime time. Il y a quand même 16 pressions des Eagles et 3 interceptions sur lui. La défense des Eagles, c'est une circonstance atténuante pour Kirk Cousins ou pas, Lucas?
C'est une circonstance atténuante dans le sens où, comme l'a très bien dit Raph, quand cette équipe des Vikings, on supprime l'arme offensive numéro 1 qui est incroyable, qui est Justin Jefferson, quand on supprime ça devient compliqué pour Kirk Cousins. Derrière, il y a un jeu au sol qui est encore une fois, à l'image de ce que j'ai dit sur les Seahawks, qui est presque inexistant. Je crois qu'il y a 62 yards et dont 20 pour Kirk Cousins. Donc, faites le calcul, ça fait très peu de yards pour le jeu au sol à proprement parler. Et du coup, on enlève le receveur numéro 1, on enlève le jeu au sol. Il reste plus grand-chose à Kirk Cousins, qui lui, en plus, encore une fois, on le sait, est un bon quarterback, mais qui n'est pas un quarterback qui va sortir des miracles. Et en plus, on rajoute le petit facteur impalpable du prime time. Ça fait un match compliqué pour les Vikings. C'est dommage parce qu'on avait beaucoup d'attentes sur eux après le premier match. On a un peu moins d'attentes sur le deuxième match. À voir quelle équipe est vraiment les Vikings. Est-ce que c'est l'équipe qu'on a vue en semaine 1? Est-ce que c'est l'équipe qu'on a vue en semaine 2? On verra.
J'ai peur que ça reste la même histoire d'irrégularité que ces dernières années, malgré le changement de coach. En tout cas, ces 2 premières semaines sont pas rassurantes à ce niveau-là. Je finis avec une stat, c'est celle du total des yards, qui est peut-être encore plus parlante que le score. 264 yards seulement gagnés par les Vikings, 486 yards gagnés par les Eagles, donc qui ont vraiment dominé des deux côtés, quoi. Ça a été très très fort pour Philadelphie. Cowboys 20, Bengals 17. Les Bengals qui devaient tranquillement se refaire hein, face à des Cowboys sans Dak Prescott, c'était une formalité. Et puis Dallas s'impose sur un field goal à la dernière seconde. Joe Burrow prend encore 6 sacks. Est-ce que c'est le moment de poser la question et est-ce que c'est le moment où on dit bah, une partie des sacks sont pour Joe Burrow et il y a un problème Joe Burrow avec la pression ? Parce que c'est ce qui se décide un peu en creux dans ce match.
Il n'est pas aidé par sa ligne offensive, certes, mais non. en effet, je pense que, sachant ça, il devrait, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais progresser dans sa lecture de la poche, dans sa capacité à lâcher le ballon vite, à même se débarrasser parfois du ballon, pas essayer de faire le hero ball, comme on pourrait dire. Je pense, et je suis d'accord, et on se l'est dit entre nous dans Slack notamment, et puis il y a d'autres quarterbacks qui sont un peu dans cette veine-là, et on parle souvent de Carson Wentz pour comparer. Il n'est peut-être pas à ce niveau-là encore, mais ça fait deux matchs qui sont un peu inquiétants pour lui.
Raphaël, Victor sur Slack, justement, c'est ce à quoi fait référence. Je pense que Lucas disait il a ce côté Carson Wentz avec le petit cut pour venir s'enfermer dans la poche, le fumble perdu. Et ouais, commencerait à se traumatiser la Carson Wentz un peu.
On a effectivement un quarterback qui à l'heure actuelle, hein, sur les deux premiers matchs, est plus responsable, à mon sens, des sacks qu'il prend que sa ligne offensive. Mais parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, dans le sens il fait pas confiance à ses coéquipiers, donc il anticipe des mouvements, il anticipe de la pression et il tombe lui-même dans ce piège et laisse pas le temps à sa ligne offensive de faire ses preuves. Donc le problème c'est que à force de s'auto-piéger comme ça, il a encore moins confiance et bon bref, donc je pense que c'est des deux côtés, que lui doit progresser dans sa lecture, il y a zéro doute, et doit un peu plus faire confiance à ses linemen. Ses linemen doivent aussi lui prouver qu'ils peuvent lui faire un peu plus confiance. Voilà, je pense notamment à Lyle Collins qui était arrivé en disant je vais être ton garde du corps à Cincinnati et qui hier s'est fait manger, s'est fait complètement dominer par Micah Parsons. Alors Parsons sera peut-être, ne va pas manger que Lyle Collins, parce que Micah Parsons est en train de faire un début de saison aussi exceptionnel en termes de pression, de pass rush. Il est premier dans à peu près toutes les catégories comme ça de stats. Donc oui, Micah Parsons c'est très fort, mais Lyle Collins on en attendait plus, et voilà. Et donc les Bengals sont en train un peu de tomber dans ce piège d'une attaque qui s'enraye, alors que c'est la force première sans doute de cette équipe malgré tout.
Et ce qui est inquiétant, c'est que, comme tu disais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et du coup t'as du mal à voir comment t'en sors. Il n'a pas confiance, donc il prend des sacs, donc il n'a pas confiance.
Et puis il ne faudrait pas que ça sorte sur une blessure comme il y a deux ans.
Aussi, en tout cas, il a pris 13 sacs en deux matchs, il prend un sac toutes les 7,8 tentatives de passe. Donc en ce modo, une passe sur 8, il se fait saquer. Donc c'est en effet beaucoup. C'est quand même aussi l'occasion de rendre hommage à la défense de Dallas qui tient cette équipe. Et ce n'était pas le cas il y a peut-être deux ans, trois ans. Et Dan Quinn fait un travail formidable, le coordinateur. Micah Parsons est énorme, mais il y a des mecs comme Dorance Armstrong à deux sacs, Dante Fowler à un sac, six plaquages pour Trevon Diggs. C'est aussi la marque, je trouve, des grands coordinateurs de faire briller un groupe autour de la star. Mais voilà, tu vois, les années même avec Wade Phillips autour d'Aaron Donald, où tu avais un Dante Fowler d'ailleurs qui avait aussi fait une bonne saison au Rams ou des choses comme ça. Là, il fait briller tout le monde. Et en fait, maintenant, Dallas, c'est une équipe défensive, j'ai l'impression.
Et en tout cas, ce que je vois, moi, c'est que c'est une équipe qui, certes, tu disais il y a deux ans, trois ans, parce qu'on estime que l'année dernière, c'était en progression et c'était une bonne défense. Mais je trouve qu'il y a une vraie différence entre l'année dernière et cette année. C'est-à-dire que l'année dernière, ça se basait beaucoup sur les turnovers. Il y avait vraiment, et le symbole, on l'a répété sur répété, c'était Diggs qui prenait beaucoup de yards, mais qui provoquait des turnovers. J'ai l'impression que cette année, ça devient une défense constante. C'est-à-dire que je crois qu'ils ne provoquent aucun turnover sur ce match-là. Et pourtant, ils font un très bon match et ils ne prennent pas beaucoup de yards. Ils arrivent à être bons. Et Diggs peut être aussi l'exemple de ça parce qu'il défend bien. Il a quelques plaquages pas très loin de la ligne de scrimmage, voire même derrière la ligne de scrimmage. Il prend pas beaucoup de yards, il fait pas d'interception, mais comme toute cette défense là avec un Micah Parsons, vous l'avez dit, qui est très bon, ça devient une vraie défense bonne, constante, sur laquelle on peut s'appuyer et qui peut faire gagner des matchs.
C'est en tout cas la très bonne nouvelle, parce que Cooper Rush était le quarterback, il a pas perdu de ballon.
Je trouve que c'est même et c'est ce qu'on avait un peu dit aussi en intersaison, c'est du côté de Dallas, autant il y a des doutes sur Mike McCarthy, le coach, le head coach, autant je trouve que les deux coordinateurs font quand même du taf pas inintéressant depuis leur arrivée. Parce que Kellen Moore, le match qui sort avec Cooper Rush en quarterback, est pas inintéressant non plus. Je veux dire, il le met dans des positions pour qu'il fasse peu d'erreurs et qu'il ait à jouer simple. Alors, c'est pas brillant, il va pas mettre 40 points avec Cooper Rush en quarterback, mais Mais l'équipe fait ce qu'il faut face à une défense des Bengals, ce qui n'est pas mauvaise en plus, hein, qui n'est pas non plus une défense facile à bouger. Donc,
Et une bonne gestion de fin de match pour une fois.
Aussi. Mais l'attaque, en effet, tu disais le bon boulot du coordinateur. 27 courses, 31 passes, c'est hyper équilibré. Il y a 7 réceptions pour CeeDee Lamb, donc qui se montre enfin un peu. On les donnait quasiment morts après la première semaine. Finalement, ils jouent Commanders, Rams, Eagles, Lions, Bears dans les semaines à venir. Il y a des matchs importants de division, du coup, Commanders et Eagles. En tout cas, ils ne sont pas morts dans la NFC Est hein, pour l'instant, même si ça semble au-dessus côté Philadelphie. Mais...
Voilà, alors, en tout cas, mon mea culpa, parce que la semaine dernière, on les a enterrés. En effet.
Broncos, Texans, 16-9 pour les Broncos. Raphaël, est-ce que tu vas parler directement du coach? Parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de coach dans cette année, je trouve.
Oui, on peut effectivement parler du coach Nathaniel Hackett qui a semblé encore une fois perdu dans ce match. Il y a une sorte de flou artistique et de coaching autour des Broncos depuis deux matchs. Équipe la plus pénalisée de la ligue avec 22 pénalités, c'est assez loin du deuxième qu'on est qu'à 16. Voilà, il y a encore cette image là où il hésite entre frapper un field goal ou y aller, il perd du temps et du coup delay of game, il se retrouve à punter. Enfin, le stade qui eut l'attaque après la première mi-temps, le stade qui compte les secondes pour plus qu'il y ait de delay of game.
Ça c'était génial.
Alors sans présager du bilan final des Broncos et même du côté tacticien, parce que ça à la limite c'est même pas forcément ce qu'on demande le plus à un head coach, hein, d'être tactique et d'être un génie offensif, génie défensif, peu importe. C'est que moi, j'ai rarement vu un coach commencer aussi difficilement en termes de prise de décision, en fait. Les décisions depuis deux matchs sont quand même très compliquées du côté de Denver. Et ça m'inquiète d'autant plus que c'est son rôle en tant qu'head coach de prendre les décisions. Il a l'air perdu à ce niveau-là. Et du coup, rien ne semble vraiment fonctionner à Denver comme on pouvait penser que ça allait fonctionner. Alors oui, il y a quelques blessures maintenant, bon, comme un peu partout dans la ligue. Donc ouais, moi je trouve ça inquiétant pour la suite de saison en fait de Denver.
Le problème, c'est que à la gestion du jeu en général, comme tu le disais, il y a aussi le côté tactique, c'est que quand ils sont en goal to go, donc c'est première tentative et la end zone, ça fait 5 fois qu'ils ont été dans ces situations-là et ça fait 5 fois qu'ils marquent pas.
Oui.
Donc ça aussi c'est quand même très embêtant. Ouais. Alors il y a eu les deux fumbles des coureurs sur la ligne derrière dans le premier match. Là du coup on file pas le ballon aux coureurs, on essaye de passer. Ça prouve aussi que ça panique un peu et que c'est pas serein, parce que ça se transmet aussi quand t'as un quarterback comme Russell Wilson, il est censé savoir convertir ces trucs là. Donc c'est un peu embêtant. Russell Wilson qui est un peu décevant d'ailleurs. Alors, ils gagnent. Hein. Là, on parle comme s'ils avaient perdu, mais ils gagnent. Ils gagnent 16-9. Il n'y a qu'un seul touchdown dans le match. Russell Wilson est à 14 sur 31, 219 yards, un touchdown, une interception. Est-ce que c'est le temps d'adaptation ou est-ce que c'est le système?
Je ne sais pas si c'est le système, parce qu'il y a pas mal de choses qu'ils ont récupérées de Seattle dans le système offensif. Mais encore une fois, et je suis désolé d'insister, mais pour moi, c'est vraiment l'élément criant, c'est le coach. Et je pense que, pour aller encore plus loin, c'est quand on manque de leader comme ça, on peut perdre le vestiaire. Un quarterback, c'est le relais direct du coach sur le terrain, généralement. Et on le sait, et les grands coachs ont souvent été des grands leaders, des gens et des personnes que l'équipe peut suivre et peut enfin suivre la direction. Là, on a l'impression que Hackett, il a très peu de direction. Comme le disait Raph, il est vraiment indécis souvent. J'imagine bien le vestiaire le plus le suivre pendant un moment et dire, mais de toute façon, il ne sait pas ce qu'il fait. Et ça peut se transcrire sur le quarterback aussi. Alors, encore une fois, Wilson pourrait être meilleur, et ce qui pourrait aussi aider la prise de décision à Hackett, parce que ça va dans un sens comme dans l'autre. Mais je pense que c'est difficile dans ces conditions.
Ouais,
Raphaël, est-ce que tu lâches Russell Wilson?
Non, parce que je pense que les chiffres sont pas les meilleurs, mais je pense pas que cette attaque est complètement larguée et qu'elle soit inefficace par rapport à ce qu'elle a l'opportunité de faire. En fait, j'ai envie de dire ça comme ça. Je suis pas convaincu que ce soit le principal problème à l'heure actuelle de Denver. Donc moi, je vais continuer à y croire. Je pense pas que ça va aller très loin non plus, mais je pense que à l'heure actuelle, Denver est pas une attaque larguée encore, en fait.
Et heureusement que leur défense limite Houston à 234 yards ça, et évite une remontée pour assurer l'essentiel. Mais c'est vrai que le coach reste en tout cas la grande question du côté de Denver. Houston est à 2 sur 13 sur troisième tentative. Je pense que pour eux, c'est un manque de bons joueurs, tout simplement. Je pense qu'on est là-dessus, manque de playmaker là.
Ouais, c'est ça. Moi, offensivement surtout, parce que oui. tu le dis, mais offensivement, on le savait, enfin, on découvre rien sur le fait que l'effectif est assez limité offensivement. Par contre, je trouve que mine de rien, défensivement, l'équipe depuis début de saison est pas ridicule. Il y a quand même des bons éléments en défense. C'est au moins une bonne base de construction pour la suite, quoi.
Pour revenir juste sur Nathaniel Hackett pour boucler ce match, je regardais la liste des coachs virés après leur première année, je me disais ça doit être ultra rare. C'est pas si rare que ça.
Il y a Houston l'année dernière.
Oui, il est pas dans ma liste, tiens, c'est marrant.
Mais Urban Meyer.
Mais voilà, il y a Urban Meyer. Et alors, c'est arrivé en 2010. Je vais vous donner les années déjà et après, je vous en ferai deviner un. 1994, Pete Carroll, viré après une saison avec les Jets. Et après, c'est arrivé en 97, 99, 2000, 2001, 2006, 2007, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2021. Donc, en fait, ça arrive assez souvent. Steve Wilkes avec les Cardinals en 2018, Chip Kelly avec les 49ers en 2016, Jim Tomsula avec les 49ers en 2015. Ils en ont viré deux en deux ans. Rob Chuzinski avec les Browns en 2013, Mike Mularkey avec les Jaguars en 2012, Hugh Jackson avec les Raiders en 2011, déjà. Voilà, je vous les fais pas tous, mais ça vous donne une idée. Du palmarès, c'est donc Urban Meyer, en effet, l'an dernier. Et c'était David Culley avec les Texans.
Oui.
C'est ça. Les Browns, 30. Les Jets, 31. Enfin, un peu de karma, mes amis. Enfin, un peu de karma. C'est la grande leçon de ce match. Clairement, quand tu signes un mec comme Deshaun Watson pour 230 millions de dollars, parfois, tu vas souffrir un peu et ce sera juste. Cleveland menait 30 à 17 dans le dernier quart. Déjà, il faut savoir que si Nick Chubb s'était couché au lieu de marquer le touchdown du 30 à 17, il pouvait écouler l'horloge et c'était fini. Bon, on va pas là, forcément leur en vouloir pour ça, il y a 30 à 17. 1 minute 55 à jouer, pas de temps mort pour les Jets. Et là, miracle, touchdown de 66 yards de Corey Davis. Onside kick réussi, touchdown de Garrett Wilson, tout ça sur des passes de Joe Flacco, messieurs, dames, Joe Flacco, une interception de Jacoby Brissett pour terminer le match. Le mieux, évidemment, c'est que les Browns perdent d'un point, notamment parce que leur kicker a manqué un extra point, sinon ils auraient été en prolongation. Le même kicker qui avait planté à 58 yards pour les faire gagner la semaine dernière. Voilà, moi je trouve que la morale de ce match, bah, c'est un peu dans vos faces, hein. Je vois pas autre chose. Je vois pas autre chose. Je sais même pas comment ils ont perdu ce match. C'est beau, c'est juste. Non. J'ai envie de dire que c'est juste. Voilà, je voulais le faire au moins une fois dans l'année. Je vous promets, je le ferai pas à tous les matchs que les Browns perdent. En vrai, ils devaient le gagner notamment parce que Jacoby Brissett a été honnête. Avant la dernière interception, Jacoby Brissett, il fait tout à fait le boulot. Il gagne 184 yards au sol. L'histoire, en vrai, c'est la défense qui craque. Il y a un 8 sur 15 pour les Jets en troisième tentative. Joe Flacco termine avec 307 yards et 4 touchdowns.
Honnêtement, hein, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment tirer quelque chose de ce match, tellement le scénario est irréel en fait. Oui, à 1,50, oui. Se remonter autant de points, tu le rejoues 10 fois et les Browns vont le gagner 9 fois en fait. Moi, je trouve qu'il y a un côté tellement irréel dans cette défaite en 1 minute 50. Que les enseignements, on peut toujours dire, bah oui, mais la défense de Cleveland, on en attend plus, elle doit pas craquer comme ça, certes, mais je sais pas, je suis pas.
Je suis pas tout à fait d'accord qu'on peut rien en tirer parce que pour moi, la défense, c'est vraiment un vrai problème et on en avait vu quelques extraits la semaine dernière et là, on le revoit de nouveau avec une erreur manifeste sur le touchdown de Corey Davis, tu le disais Alain. Il y a vraiment une erreur, il y a des defensive backs qui sont perdus sur certaines actions. Ils l'étaient déjà un petit peu la semaine d'avant, ils le sont de nouveau, c'est censé être une des grandes forces déjà la défense de cette équipe et au sein de cette défense-là, les defensive backs, le backfield défensif est censé être là aussi une grande force. Et pour le coup, je ne le vois pas. Il y a vraiment, comme je le dis, alors je ne veux pas citer de nom parce que je ne me rappelle plus exactement quel est le cornerback qui se trompe. Mais,
je crois que c'est Denzel Ward. Hein.
Il me semble, ça doit être Denzel Ward, je crois. Qui attend peut-être, je crois, une couverture de Grand Delpit. Enfin, en tout cas, l'action, vous l'avez en tête certainement si vous avez vu ce match-là. Pour moi, il y a des enseignements à tirer sur le fait que cette défense-là, elle est très inquiétante. Alors oui, s'ils rejouent le match, ils ne le perdent pas, mais ils prennent quand même encore une fois 31 points. Pour moi, c'est inquiétant. Oui.
Je rappelle le bilan de Joe Flacco sur ses 8 derniers matchs en tant que titulaire. 8 défaites. Il était à un petit 0-8 avant de rentrer dans ce match. Mais je suis d'accord avec Lucas. La leçon, c'est vraiment la défense qui. Et c'est, je sais plus si c'est le coach ou si c'est Miles Garrett qui le dit en interview le lendemain, peut-être, qu'ils sont un peu paumés en défense et que, et clairement, c'est le truc à surveiller. Et encore une fois, pour l'attaque, elle avait fait son taf pour le coup. Bon, pour les Jets, ils ont été audacieux quand même. Ils se sont battus. C'est à mettre au crédit de Robert Saleh. On parlait de coach avec, avec Nathaniel Hackett. On s'est suffisamment, on a suffisamment taquiné Robert Saleh qui disait qu'il prenait les noms de tous ceux qui se moquaient de lui la semaine dernière. Bon, après, il n'y a pas grand-chose de plus à en tirer non plus, quoi.
Il y a des rookies qui se montrent. Il y a Wilson qui marque des touchdowns. Il y a Hall qui marque un touchdown. Ça peut prouver que la draft était bonne.
C'est ça. Je précise quand même... moi, j'ai trouvé ça difficile pour les Browns, mais très savoureux au sens où on a vu des images de quelques supporters qui avaient fait des blagues plutôt vaseuses et qui relativisaient les méfaits de leur quarterback qui surpaye là. Et j'avoue que j'étais pas mécontent de voir ces 3-4 abrutis là souffrir, sachant qu'évidemment 95% des supporters des Browns sont tout à fait sympathiques et je leur souhaite pas ce qui est arrivé. Mais de savoir que les 2-3 abrutis qui se réjouissent d'avoir Deshaun Watson dans leur équipe et qui en plus le défendent avec des blagues vaseuses. Ah, ceux-là, ça me dérange pas qu'ils perdent un match comme ça, tu vois. Je t'avoue que sur le moment, je me dis, bah, un petit peu de karma quand même, un petit peu de karma. On fait une petite pause et puis là.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sweet.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On enchaîne avec tous les autres matchs de la semaine 2 et on commence avec le carton de lundi soir entre les Bills et les Titans, 41 à 7 pour Buffalo. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Raphaël? Je t'ai envoyé, parce que tu devais revoir le match pour l'émission, je t'avais envoyé une photo de boucherie sur le Slack en te disant, voilà, je te mets le résumé tout de suite, perds pas trop de temps à le regarder. C'était magnifique.
Magnifique, effectivement. On a une équipe des Bills qui a confirmé toutes les bonnes choses qu'on avait vues en première semaine. Ils l'ont confirmé là, sur la deuxième semaine. Allez, si on veut être un peu optimiste pour les côtés Titans. Les Titans tiennent bien un carton à peu près. Il y a un carton et demi, on va dire, où ils sont pas trop, trop largués. Et Buffalo met un peu de temps à s'en sortir. Mais une fois que Buffalo met la seconde, notamment deuxième mi-temps, on a Stephen Diggs qui casse toutes les couvertures. On a le pass rush de Buffalo et Von Miller, notamment, qui deviennent de plus en plus omniprésents et qui annihilent complètement l'attaque des Titans. Donc ouais, bah tout simplement, après deux semaines, les Bills sont l'équipe la plus complète, que ce soit offensivement, défensivement. Personne ne fait mieux qu'eux en globalité après deux semaines. Ils confirment leur statut de favori. C'était le cas avant l'intersaison, ils le confirment. Est-ce qu'ils arrivent trop tôt ou pas, ça sera la question de fin de saison. Mais je pense que la première place NFL leur tend bien les bras, quoi.
J'ai peu de souvenirs récents d'un début de saison aussi... rouleau compresseur, mais des deux côtés, parce que là, ils limitent les Titans à 187 yards. 187,
le,
quoi.
Les
Chiefs, non?
J'allais dire, moi, la première année Manning Broncos, où ils reprennent le MVP et qu'ils vont au Super Bowl.
Ils battent le record de touchdown.
Ouais, où ils sont très, très forts des deux côtés. Après, il y a le Super Bowl qu'il y a, et voilà. Mais sur le début de saison, ils enchaînaient assez facilement aussi.
Ça remonte déjà, hein, quand même.
Ouais, ça remonte, ouais.
C'est 2013-14. Donc ça commence à remonter. Là, ouais, tu vois, il limite les Titans à 187 yards. Tu l'as dit, Allen, donc 4 touchdowns. Stephon Diggs, 148 yards. Ils ont en plus à peine de jeu au sol. Tu vois, ils ont 101 yards, mais à 4. Enfin, voilà. Et pourtant, ça a l'air inarrêtable, quoi, Lucas.
Moi, je me suis noté, je me suis dit, mais qui peut battre les Bills? C'est exactement la question que je me suis noté, parce que vous avez parlé de l'attaque, vous avez parlé de la défense. Il y a aussi de belles équipes spéciales. Déjà, il n'y a pas d'erreur et il y a des erreurs provoquées en face. C'est toujours des erreurs gagnées, notamment sur des punts où on l'a vu. En effet, ça devient très compliqué. Ils n'ont pas un jeu au sol incroyable, mais bon, ils découpent dans les airs. Demain, si les airs sont un petit peu plus bloqués, ils feront courir un peu plus et Josh Allen pourra trouver des solutions. C'est vrai que c'est pour l'instant, la question, c'est vrai, que pose Raph, elle est très juste, c'est est-ce que c'est trop tôt? On le verra. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, ils sont très, très forts.
En tout cas, si on en est à pinailler avec comme seul argument, est-ce que c'est trop tôt pour être si fort? C'est que les gars sont pas trop dans une mauvaise position. Les Titans, c'est plus galère. On y reviendra pas mal dans la preview de jeudi parce qu'on parlera des équipes à 0-2. Mais un petit mot sur ce match. J'ai l'impression que l'histoire, c'est Derrick Henry est neutralisé, fin de l'histoire, quoi.
C'est plus ou moins ça. On a quand même globalement une ligne offensive à Tennessee qui est en grande difficulté là depuis le début de la saison. Et on le sait aussi, les coureurs sont très dépendants de la ligne offensive. Derrick Henry a un peu de mal à relancer la machine. Lui, t'es un jeu de course qui demande à être. Ça fait partie de ces coureurs qui ont besoin d'être nourris, d'avoir beaucoup de portée, de en permanence mettre de l'impact pour finir par faire beaucoup de dégâts en fin de match. Sauf que là, ils n'ont pas l'occasion, ils sont en retard, du coup, ça passe un peu plus, donc il a moins de portée. Je crois que pour le moment, sur les deux premiers matchs, sa moyenne de portée chute de 6 ou 7 portées par rapport à l'an dernier, ce qui est pas anodin. C'est compliqué, mais même pour Tannehill, c'est compliqué du coup sans la ligne offensive. Et après, t'as la défense qui finit par plier parce que l'attaque avance pas. C'est le schéma un peu classique pour le coup, ça.
On y reviendra pas mal dans l'émission qui sera mise en ligne jeudi matin avec Victor. Rams 31, Falcons 27. Il a fallu une interception de Jalen Ramsey en fin de match pour éviter une mauvaise surprise aux Rams, mais elle est menée 28-3. Alors c'est un match un peu dur à juger parce que s'il faut retenir un truc dans ce match, c'est soit le positif, ils menaient 28-3, soit le négatif, ils ont eu du mal à la fin. Je vais retenir le positif. Je vais être positif aujourd'hui. Allen Robinson a capté un touchdown. Matthew Stafford a été bon en début de match. Jalen Ramsey a fini le boulot. Est-ce qu'il va falloir être plus régulier? Oui, mais comme c'est un peu leur pré-saison encore, je me dis, je suis positif. Je retiens le positif. Encore une fois, c'est cette remise en place. C'est un Allen Robinson qui contribue plus. Voilà, l'attaque se met en place. C'est pas encore formidable sur la régularité. Est-ce que vous retenez le positif ou le trou d'air?
Je vais être obligé de prendre le contre-pied. Raph a l'air de retenir le positif. Alors je vais te laisser.
Ouais, parler. Moi j'aurais tendance à retenir le positif, on va dire, comme tu dis, un jeu aérien qui s'est un peu retrouvé avec Robinson qui a pris un peu en ampleur sur ce match. Et le positif parce que encore une fois, moi je trouve que ça reste la marque de fabrique de Los Angeles, c'est que les playmakers ont fait la différence au moment où il fallait. Et je crois que cette construction d'effectifs à Los Angeles fait qu'on n'aura jamais une équipe solide de A à Z des deux côtés du terrain, mais par contre dans les grands moments et les moments qui comptent, ils vivront par les grosses actions de leurs grands joueurs. Et là, ça a été le cas. Ça tiendra peut-être pas toute la saison et c'est ce qui fera peut-être qu'ils ne feront pas le doublé. Mais malgré tout, pour moi, ça reste leur plus grande force. Et là, cette force, tu vois qu'elle a pas disparu. Donc bon.
Lucas, qu'est-ce qui t'inquiète, toi?
Les pertes de balles, les turnovers. Alors oui, je suis d'accord avec vous, les playmakers, je suis d'accord avec vous. McVay avait dit la semaine dernière, il faut mettre en place plus de joueurs qui touchent le ballon. On a vu Allen Robinson qui a touché le ballon, on a vu Cam Akers qui a plus touché le ballon. Ça, c'est positif et il faut que ça continue. Mais il y a des pertes de balles. Et on parle d'Atlanta, on parle de 28-3, ça va les poursuivre jusqu'au bout. Mais on parle d'Atlanta quand même. Je veux dire, les Rams ont quand même des ambitions beaucoup plus hautes que battre les Falcons un petit peu difficilement sur une remontée. Et là, il y a beaucoup de pertes de balles. Matthew Stafford lance deux interceptions, il y a un fumble. C'était déjà le cas la semaine dernière, mais on pouvait se dire c'est les Bills. Les Bills, forcément, en défense, on va perdre des ballons. Là, c'est contre les Falcons. Si ça continue comme ça, ça va les restreindre dans des matchs où l'intensité et où l'adversaire sera plus haut. Donc moi, ça m'inquiète un petit peu. Ça peut venir avec le temps, mais ça m'inquiète. Ouais.
C'était le cas un peu l'an dernier. Stafford, il y a une partie de la saison où il perd quelques ballons. Enfin, je veux dire, leur bilan l'an dernier est pas incroyable. Le bilan global à la fin de la saison, quand tu fais le compte, c'est pas une équipe qui a dominé la NFC. Ils n'ont pas particulièrement dominé leur division. Et à la fin, ils ont un run en playoff avec des grands joueurs qui font des grosses actions. Je dis pas que ça sera le cas cette saison, mais finalement, est-ce que c'est pas ça les Rams, tu vois? Enfin, je sais pas.
Je suis assez d'accord avec ça au sens où, en effet, c'est une équipe qui manque de consistance. Donc c'est vrai qu'ils vont un peu vivre et mourir par leur playmaker. Est-ce qu'on croit aux Falcons? Ils passent deux fois pas loin. Marcus Mariota est pas ridicule. On va dire que c'est ce qu'il faut retenir pour eux. Après, tactiquement, on parlait de Derrick Henry pour les Titans. Là, si tu annules Kyle Pitts, ça aide un peu quand même à neutraliser cette attaque parce que c'est quand même. Drake London est déjà bien, hein, attention, hein, pour un rookie. Mais Kyle Pitts, c'est un des problèmes à solutionner quand tu veux les défendre, quoi.
Oui, mais bon, comme tu l'as dit, il y a Drake London, qui est un receveur qui a été drafté haut, qui est obligé, de par ce draft-là, d'être productif, surtout que Ridley n'est pas là. Donc, moi, je retiendrai ça du côté des Falcons. Il y a des choses de plus en plus, donc après, il faut essayer de mettre tout ça en musique.
Ouais, moi, là où je suis peut-être un peu moins inquiet, et j'aurais pas tout à fait le même regard là-dessus, c'est que j'ai l'impression que pour le moment, c'est aussi beaucoup Arthur Smith qui, dans son plan de jeu, utilise un peu moins son tight end, qui lui demande un peu plus de bloquer, un peu plus de. Donc, je sais pas si c'est. Je suis pas sûr que ce soit vraiment lui qui soit annihilé par les adversaires plus que des choix tactiques. Donc, peut-être qu'à un moment, Pitts va aussi ressortir de sa boîte parce que voilà. Moi, je retiendrai plutôt le positif. Il passe pas loin de battre deux équipes contre lesquelles on les voyait perdre largement.
Du bon boulot d'Arthur Smith, donc.
Il y a du caractère, en tout cas.
Mine de rien. Packers 27, Bears 10. Victoire plutôt facile de Green Bay dans ce match. Grosse défense qui a pris un touchdown rapidement, mais qu'ensuite ne laisse plus que 3 points. Et puis un énorme jeu au sol. Est-ce que la leçon de ce match, justement, c'est que cette année, encore plus que jamais, on parlait un peu des Patriots, enfin des Buccaneers qui étaient les Patriots à l'ancienne. J'ai l'impression que c'est l'année où les Packers doivent être plus que Aaron Rodgers. Moi, c'est ce que je retiens de ce match. C'est que, il n'a pas été gestionnaire, parce que c'est Aaron Rodgers, on ne peut pas dire que c'est un gestionnaire, mais 19 sur 25, 234 yards de touchdown, tu as 203 yards au sol, tu as une énorme défense, en tout cas aujourd'hui, face à une faible attaque. Mais dans ces conditions-là, ça va mieux, ça laisse du temps aux jeunes receveurs aussi de faire un peu leurs armes, parce qu'il leur faut quelques matchs. Et je trouve qu'il va aussi falloir un peu de ça, quoi. Il va falloir un peu d'une équipe plus complète que juste un show de la star. Raphaël.
Ouais, t'as raison. Je pense qu'effectivement, faut baser un peu plus sur les autres qualités de cet effectif qui en manque pas, hein, malgré tout, comme tu l'as dit. Donc oui, c'est peut-être la clé, la voie de cette équipe. Arrêter de compter sur Rodgers en mode héros qui fait la différence et de lui demander d'assurer un peu plus, surtout qu'il a pas les receveurs pour faire la différence. Donc
Un bon manager sait responsabiliser tous ses collaborateurs. Je l'ai lu sur LinkedIn aujourd'hui.
Cher réseau.
Ben voilà.
Cher réseau, je m'appelle Aaron. J'ai décidé de responsabiliser tous mes collaborateurs aujourd'hui. Et ainsi, notre groupe a beaucoup mieux fonctionné.
Et moi, j'en ai un. Cher réseau, je m'appelle aussi Aaron et je suis très bon, que ce soit à la course ou à la passe. Donc, n'hésitez pas à m'utiliser parce que je sors un énorme match, Aaron Jones. Et en effet, parce qu'on parle d'Aaron Rodgers, mais Jones fait un très bon match et pourquoi pas continuer à l'utiliser. Je crois que j'ai lu la stat comme quoi quand il est à plus de 100 yards, les Packers sont à 12-1. Donc, certes, Rodgers est la star et c'est sur lui que l'attaque est portée. Mais comme vous l'avez dit, si on passe un peu plus vers la course et un peu plus vers Aaron Jones, pourquoi pas?
Alors, je ne peux que supporter ton propos. Quand Aaron Jones a le ballon, c'est ce qui se passe de mieux.
Ça sent la Fantasy League, ça.
Aaron, que j'ai acquis dans un échange en Fantasy 3 jours avant le match et qui me rapporte 32 points. Royal. Aaron, c'est la famille maintenant, moi, pour moi. Aaron Jones, il peut venir quand il veut à la maison. Là, il m'a fait match très, très difficile, remporté grâce à Aaron Jones notamment. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut alimenter Aaron Jones pendant tout le reste de la saison. Surtout lui. Côté Bears, il y a eu des fulgurances pour l'attaque, mais c'est encore bien trop faible. Ils marquent au début, ils font un peu de yard à la fin. Après, c'est le néant quand même. Fields, est-ce que c'est pareil? Fields, c'est victime de l'environnement? C'est un problème aussi? Est-ce qu'on commence à s'en faire? 7 sur 11, 70 yards, une interception. Les stats de Fields à Chicago, là, je regardais sur les depuis qu'il est arrivé, donc il y a plein de matchs où il passe même pas les 150 yards, quoi. Ce qui, dans la NFL de 2022, est un peu flippant, quoi.
Ouais, c'est compliqué, là, si je dis pas de bêtises. Même sur les deux premiers matchs, il fait 14 passes, enfin, il lance 14 ballons en moyenne, donc ça prouve quand même que j'ai du mal à croire qu'en 2022, tu puisses gagner en NFL en lançant aussi peu et aussi moyennement.
Depuis ses débuts l'an dernier, il a jamais passé les 300 yards.
Ouais, non, c'est compliqué. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a un problème de casting autour, mais ça peut pas être la seule explication. Ouais, un peu inquiet pour la suite, parce que la défense, c'est neutre, hein, la défense. C'est comme depuis longtemps à Chicago, finalement, t'as l'impression que Chicago arrive toujours à avoir une défense à minima correcte, sans être brillante, sans être machin, mais le taf est plutôt fait. Pas forcément, voilà. Ouais, ça inquiète. Et on ne voit pas tellement la clé, en fait, pour le moment. On n'arrive pas à...
Lucas ne voit pas de clé non plus, je le vois, ça
Non, non,
bouge.
non, je vois pas beaucoup de clés. Je sais pas si je peux rajouter grand chose. Tu parlais de fulgurance, j'avoue que même ça, je les ai pas beaucoup vus. Mais bon, oui, c'est inquiétant. Ils ont battu les 49ers la semaine dernière. Je pense que c'était peut-être un feu de paille. Je les vois plus représenter ce qu'ils nous ont montré là ce week-end que le week-end dernier.
36 pour les Lions, 27 pour les Commanders. Raphaël, est-ce que tu as préféré les 36 points en attaque ou les 3 sacks d'Aidan Hutchinson? Parce qu'il y a des petites choses sympas chez les Lions dans cette semaine.
L'attaque, pour moi, c'est quand même la chose à retenir avec un gros taf du coordinateur offensif Ben Johnson, hein, qui est nouveau à ce poste. L'an dernier, il s'occupait des tight ends, si je dis pas de bêtises.
Après une longue carrière dans le sprint.
J'allais dire ça va vite.
Ça va vite, ouais. Espérons qu'il se fasse pas choper de la même manière après un tel début, mais. Forcément, t'as envie de retenir ça parce qu'après deux matchs, ils sont la meilleure attaque en nombre de points marqués ou la deuxième peut-être, je sais plus. Ils ont une moyenne de 35 points marqués par match. Je crois que personne n'attendait ça.
Oui, ils sont top 2, ouais.
Je crois que personne n'attendait ça des Lions quand même ce début de saison. Alors que l'attaque soit mieux que l'an dernier, beaucoup l'avaient dit. Au point d'être deuxième après deux matchs, je pense que personne n'osait l'espérer. Et donc moi, pour moi, c'est ça le premier truc à retenir parce que il y a une construction qui a été intelligente par les tranchées avec des skills players intéressants et qui sont en train de payer. Ils vont pas maintenir ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison, c'est absolument impossible. Mais que de progrès, donc l'attaque pour moi sans hésiter.
Stat folle sur l'attaque des Lions, ils n'ont pas atteint les 35 points pendant toute la saison 2018, pendant toute la saison 2019, pendant toute la saison 2020. Et ils ont atteint une seule fois les 35 points l'an dernier, c'était sur le dernier match de la saison. Donc sur les 4 dernières saisons, ils avaient atteint une seule fois les 35 points. Donc je suis d'accord avec toi. En vrai, Jared Goff a 4 touchdowns. Bon, il se met au niveau des playmakers, il sait faire. Amon-Ra Saint-Brown est incroyable. 2 courses pour 68 yards en plus de ses 9 réceptions pour 116 yards et 2 touchdowns. Enthousiasmé, Lucas aussi, enthousiasmé par cette équipe-là.
Oui, enthousiasmé. Et puis moi, je vais parler un petit peu de la défense parce que sur l'attaque, vous avez tout dit et je suis assez d'accord avec vous. Ça fait du coup 3 matchs à plus de 35 points, enfin 35 points ou plus d'affilée du coup. Mais sur la défense, il y a des belles choses. Et tu parlais d'Hutchinson, mais en effet, pour l'instant, il valide le choix de la draft. Alors c'est très tôt, mais il a déjà montré. Il met un peu de désordre dans cette ligne. Derrière, il y a une équipe qui est une équipe solide. Alors après, elle est inconstante parce que derrière, les Commanders se marquent aussi pas mal de points, mais il y a de quoi faire, de rendre un petit peu plus, rendre ça un petit peu plus constant, et ça peut devenir une équipe assez équilibrée, assez homogène et plutôt bonne. En tout cas, c'est sur la bonne direction des deux côtés du terrain, je trouve.
Les Commanders, tu l'as dit, donc ils ont vécu la full expérience Carson Wentz. 2 first downs en première mi-temps, 0 points. 27 points en deuxième mi-temps avec 3 touchdowns pour lui. Tu dis il y a des trous, enfin ils ont eu des hauts et des bas en défense des Lions, mais c'est tellement irrégulier chez les Commanders aussi que.
Ouais, oui, c'est irrégulier en attaque, c'est irrégulier en défense, avec une défense qui, quand même, à mon sens, est pas au niveau qu'on espère et qu'on attend d'elle, surtout après tant d'investissements en termes de choix de draft, de machin. Donc,
J'ai envie de te dire que des deux côtés du ballon, c'est pas une question de talent, en fait.
non, je crois pas, effectivement, parce que cette année, pour le coup, on l'a dit en épisode numéro 1, on le redit en épisode numéro 2, mais les skills players sont quand même intéressants du côté de Washington.
Complètement.
Donc, c'était pas le cas l'an dernier. Donc, ouais, là, je pense qu'on peut commencer à gentiment pointer du doigt vers une autre direction du terrain qui est plutôt au bord du terrain. Et voilà. On peut aussi pointer Carson Wentz, hein, il n'y a pas de problème. On l'a assez fait. Mais ouais, je crois que Washington va nulle part en fait avec le duo Rivera-Wentz. Tout simplement, je sais.
Bah, il serait temps. Ils ont essayé, hein, de toute façon, comme des fous, de faire des échanges pour des quarterbacks pendant l'été. Venn, c'était la 40e option. Donc voilà. Après, pourquoi les joueurs veulent pas aller à Washington? Il y a peut-être des problèmes encore plus haut aussi, hein. Ça c'est autre chose, Lucas.
Et puis indépendamment de ça, en effet, bon, ils ont essayé d'avoir un meilleur quarterback, ils l'ont pas forcément eu, mais il y a du talent en défense aussi, et la défense fonctionne plus. Je suis assez d'accord, on l'avait dit en début de saison, ça sent la fin pour Ron Rivera, dans la capitale.
Steelers 14, Patriots 17. On y va à Kenny Pickett ou pas, Lucas? Peut-être déjà temps, non?
Ouais, on y va, on y va. On traîne plus parce que de toute façon, il y a plus grand-chose à faire avec Mitch Trubisky. Alors, il est plus jeune que certains quarterbacks qu'on recycle, mais tout de même, je pense que c'est du recyclage. Et tant qu'à faire, autant TJ Watt n'est pas là, il est blessé, on verra pour combien de temps. Mais quand il n'est pas là, ça rend cette défense, on en parlera peut-être après, mais un peu en dessous. Donc, il n'y a plus grand-chose. Même là, ils ne peuvent plus gagner le match avec la défense. Donc, autant tenter et essayer de mettre un rookie dans des conditions où il peut essayer de progresser pour l'année prochaine déjà.
Puis bon, t'as un jeu au sol qui souffre de la ligne, t'as quelques bons receveurs, la ligne n'est pas ouf, mais tout sauf Mitchell Trubisky, j'ai envie de te dire, lancer 33 passes pour gagner 161 yards, 168 pardon, excusez-moi.
Alors après c'est beaucoup les annonces de jeu qui font que, mais en même temps si on annonce des jeux comme ça, c'est qu'on sait que Mitch Trubisky peut pas faire beaucoup mieux, donc c'est un peu le chat qui se mord la queue.
Ouais, parce que Chase Claypool, George Pickens, Jonta Johnson, ça sait capter des ballons en profondeur. Hein.
Ah non,
mais oui.
C'est clairement manque de confiance.
C'est pas le problème des mecs qui savent courir devant, hein, clairement. Raphaël, tu tenterais déjà Pickett aussi?
Ouais, oui, pourquoi pas. Enfin, je le tenterai peut-être même plus pour la défense qui se tue match après match pour essayer de maintenir la chance de gagner. Donc, ne serait-ce par respect pour tes défenseurs de mettre le quarterback qui donne le plus de chances de gagner à l'équipe. Maintenant, sauf si demain Tomlin arrive et dit que de toute façon les playoffs c'est pas l'enjeu de la saison et qu'il préfère que Pickett apprenne sur le banc. Bon, bah dans ce cas-là, pourquoi pas. Hein, mais
Lucas, tu disais la défense est un ton en dessous avec sans TJ Watt, bon, ce qui est un peu logique, mais au final elle craque pas quand même hein, sur ce match. Ils prennent que 17 points. Je sais qu'il y a pas il y a pas des foudres de guerre en face, mais
ils prennent que 17 points, mais il faut mettre en perspective avec ce qu'il y a. Il y a aucun sac sur ce match-là. Une équipe qui pour le coup a toujours eu une ligne défensive et depuis un moment qui produit des sacs avec TJ Watt, mais même avec des joueurs autour. Et on se rend compte que quand TJ Watt n'est pas là, ça devient très compliqué. Je disais que depuis 2017, il y a eu 3 matchs où les Steelers n'ont pas fait de sac, donc déjà c'est très rare. Parmi ces 3 matchs-là, il y en a 2 où TJ Watt est absent. Donc ça montre bien l'importance de ce joueur-là qui rend toute l'équipe meilleure. Et du coup, ça devient, c'est plus une défense élite pour moi sans lui.
Oui, ils ont pas ce petit cap élite, ça c'est sûr. C'est vrai qu'ils ont mis que 2 fois la pression sur 35 snaps à la passe de Mac Jones. Après les Packers, moi je leur tiens mon chapeau entre guillemets, c'est que ils prennent 31 courses sur le nez, et ils autorisent jamais plus de 16 yards, ils explosent.
Ouais, ils défendent quand même pas trop mal. Hein.
Voilà. C'est plus à ce niveau-là. Après, Mac Jones, c'est toujours hésitant. Est-ce qu'il y a des progrès pour toi, Lucas?
Par rapport au premier match, oui, il y a des progrès, parce que le premier match était vraiment inquiétant. On pensait même qu'il avait régressé par rapport à l'année dernière. Donc, il y a des progrès, oui. Est-ce que c'est rassurant ou est-ce qu'on se dit que c'est reparti? Je ne sais pas, parce que comme tu l'as dit, c'est assez hésitant. Il y a des passes qui sont un petit peu bancales, si je peux me permettre. Il y a un très bon jeu au sol, et clairement, les Patriots passeront par le jeu au sol cette année pour gagner des matchs, et parce que ça permet de garder le ballon, ça permet de maîtriser l'horloge, ça permet de ne pas trop mettre de pression sur Mac Jones et de libérer. Maintenant, voilà, Mac Jones va devoir progresser, mais comme je le disais, on avait l'impression qu'il s'était arrêté à un niveau l'année dernière et qu'il allait reprendre sur ce niveau-là pour continuer à progresser. Là, il est reparti d'un peu plus bas et il reprogresse. Donc, ça peut encore prendre du temps.
Raphaël, Mac Jones, tu veux en dire un mot ou on enchaîne?
Non, on peut enchaîner.
Allez, on est parti avec les Giants 16, Panthers, Giants 19, Panthers 16. Les Giants qui s'imposent avec notamment 4 field goals de Graham Gano, un match où il n'y a eu que 2 touchdowns au total. Est-ce que Matt Rule pourrait être le premier coach viré, Raphaël? On parlait de Ron Rivera. Il y a compète. Hein.
Il pourrait, il y a compète. On rappelle quand même, il en est dans sa 3e saison. Les 2 premières saisons se sont finies avec 5 victoires à chaque fois. Donc, en plus, pas des bilans fantastiques. Oui, moi, il me fait un peu penser à. Enfin, du coup, en fait, ces Panthers dirigés par Matt Rule me font penser à une sorte de poulet sans tête. Ça court, mais on ne sait pas où ça va, en fait. Je ne sais pas quelle est l'identité de l'équipe. Tous les ans, tu changes de quarterback, il y a un carrousel. T'en prends un médiocre par un médiocre et t'essayes de voir ce qui se passe. McCaffrey revient, mais on lui donne pas tant de ballons que ça. Enfin, franchement, je sais pas où va cette équipe, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Donc, pour moi, l'expérience Matt Rule doit s'arrêter parce que, encore une fois, je pense que c'est un effectif qui vaut un peu mieux que ce qu'il monte sur le terrain depuis trois saisons, même, tout simplement.
C'est ça la grande leçon de ce match pour toi ou c'est plus du côté de Giants qu'il faut aller regarder pour avoir des choses intéressantes?
Moi, je crois que c'est quand même ça, malgré tout, la grosse leçon de ce match, parce que les Giants ont fait le même match qu'en première semaine, quasiment. Une défense plutôt bonne, correcte, avec des jeunes joueurs qui défendent crânement leur chance. Et après, une attaque qui est trop limitée par Daniel Jones. Enfin, je...
176 yards bon, en 34 voilà. passes tentées.
Voilà. Je pense sincèrement que Daniel Jones, c'est sa dernière saison à New York. Hein. Je ne vois pas très bien ce qu'il continue à faire avec lui. Mais...
Moi, je ne sais pas, mais je l'espère.
Hein
Lucas, il est plus significatif pour qui ce match, les Panthers ou les Giants?
Bah, en tout cas, il prouve exactement ce que vient de dire Raphaël, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui n'a pas d'identité et on ne sait pas où elle va, et l'autre, on sait où elle va. Alors, elle est peut-être loin de là où elle aimerait être, les Giants, mais on sait où elle va. Il vient de le dire, elle a fait exactement le même match que lors de la première semaine, ce qui est déjà bon signe, c'est-à-dire que les matchs ils sont constants, il y a une défense qui est constante. Alors oui, il y a des lacunes, oui, il y a un Daniel Jones qui, à mon avis, n'est pas la solution, mais bon, pour l'instant, Daboll ne peut pas faire autrement que Jones. Donc, il fait avec et il essaye de trouver des solutions autour. La semaine dernière, c'était Barkley. Là, il y a une défense. Donc, au moins, il y a une identité, pardon, ce qui est déjà bon signe, ce qui est déjà une bonne partie du travail qui est faite. Ça me fait penser un peu, et encore parce qu'il y a des matchs qui sont gagnés, mais les Lions, l'année dernière, avaient une identité aussi. On se disait que ça pouvait progresser et ils peuvent se baser sur ça pour cette année. Bah, les Giants ont peut-être déjà leur identité avec leur nouveau coach et il faudra maintenant travailler là-dessus.
C'est marrant, j'ai l'impression quand je vous écoute que les Giants ont le coach, mais pas les joueurs, et les Panthers ont les joueurs, mais pas le coach.
On verra pour Daboll, ça fait deux matchs, mais il y a quand même des joueurs aux Giants, hein, y a une bonne défense, il y a Barkley qui semble être revenu. Il manque un quarterback, c'est criant. Donc c'est on ça. A tendance à dire qu'il n'y a pas les joueurs, mais tout n'est pas à jeter.
Oui,
Je pense que les deux équipes auraient besoin d'un quarterback en l'occurrence. Hein. On n'a pas parlé en long et en large de Baker Mayfield, mais...
Je pense qu'on va avoir le temps, il reste 15 matchs. À mon avis, voilà. le bilan...
14 sur 29, 145 yards et un touchdown hein, pour Baker Mayfield, pour ceux qui voulaient les stats. Donc en effet, c'est un peu inquiétant. Il y a plus de yards au sol qu'à la passe pour Carolina. 146 yards au sol, 145 yards à la passe. Ce qui, dans la NFL moderne, à part citer les Baltimore Ravens d'il y a deux ans, est plutôt inquiétant. C'est quand même plutôt embêtant, mais je vous rejoins totalement, je ne vais pas en rajouter sur les histoires d'identité. On ne sait pas où les Panthers vont, et en effet, New York a l'air d'en avoir un petit peu, donc c'est une bonne nouvelle, et on va terminer sur cette bonne nouvelle. Messieurs, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 508 du podcast J'en Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Paul Bracco, Ludovic et Nitinia, cette semaine, se sont ajoutés à la liste. Merci à eux de nous soutenir. N'hésitez pas à aller sur le Tipeee. En ce moment, on a les affiches de la 500e qui sont disponibles, il nous en reste quelques-unes, donc n'hésitez pas, c'est collector. N'hésitez pas, et puis on va mettre des nouveaux goodies tous les mois encore normalement cette saison. Donc encore une fois, c'est sur Tipeee et vous avez les liens sur le site. N'hésitez pas à nous laisser des évaluations et des étoiles sur toutes les applis de podcast que vous fréquentez, Apple Podcasts, Spotify, etc., etc. Ça nous aide à remonter dans les flux. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu en entier, les réseaux sociaux perso Raphaël _ TDA,
c'est ça.
Sur Twitter, Raphaël, @Elvola pour Lucas, @Alain Mattei pour moi-même. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On se retrouve demain, et ouais, c'est tous les jours maintenant, c'est tous les jours. On se retrouve demain pour la preview de la semaine 3 avec Victor Roulier. Je l'ai dit, on parlera des équipes qui sont à 0-2 notamment, et puis du duel de vieux entre Brady et Rodgers, évidemment. Ouais, gros duel de vieux cette semaine. Ça gros fight à l'EHPAD, ça va être le titre de l'épisode. On va appeler ça comme ça. Gros fight à l'EHPAD NFC. Bonne journée à tous, ciao ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.